Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être insulté pour ce que je suis, parce que j'ai choisi ce que je suis. Et je me souviens très jeune de m'être beaucoup interrogé sur l'insulte, ce qu'elle voulait dire de moi, mais aussi ce qu'elle parvenait à faire de moi. C'est ce qui est le plus difficile quand on en vient à comprendre que l'insulte est un acte qui, en plus de vous stigmatiser ou de vous exclure, finit par vous définir, que vous le vouliez ou non. Alors des insultes antisémites qui s'affichent sur la vitrine d'un magasin à l'encontre d'un intellectuel, quoi qu'on pense de lui, ou d'une militante, quoi qu'on pense d'elle. Je repense à ce livre de l'américaine Judith Butler qui a changé ma vie, ce livre Excitable Speech, le pouvoir des mots en français, repris par Didier Héribon dans ses réflexions sur la question gay. Ce livre qui nous dit que le drame de l'insulte ou de l'injure, c'est qu'elle finisse par être constitutive de ma personnalité, de ma subjectivité, de ce que je suis, c'est-à-dire ce qu'il ne faut surtout pas être. Ce livre, il m'a prouvé par A plus B la façon dont l'insulte vous assigne à une place au sein de l'ordre social, qui est une place de dominé. Il m'a prouvé que l'insulte, comme l'injure, ne sortent pas de nulle part, qu'elles reproduisent un ordre social, une tradition, une histoire de la domination, et qu'il faut pas mal de créativité surtout pour s'en sortir de ces insultes, pour se réinventer, pour se reformuler, pour redéfinir ses identités.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a toujours combattu l'insulte. Il est comédien, sa voix grave, son regard intense vous ont fait rire dans La Cité de la Peur ou ému dans Le Cœur des Hommes. Le dictionnaire de sa vie, en collaboration avec Laurence Monsénégo, vient de paraître chez Kéro. Bonjour Gérard Darmon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin.
Merci de m'avoir invité surtout.
Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous sentir insulté?
Oui. Et c'est quelque chose d'assez... Il y a une frustration quand on reçoit l'insulte. Et en même temps, c'est une façon de se, comme vous l'avez dit très, très justement, de se définir. Et une façon aussi de garder ses repères. Parce que la première tentation quand on est insulté, c'est de répondre. Et de répondre dans le même ton, sur le même ton, avec les mêmes mots, orduriers. Moi, j'aime bien de temps en temps avoir des mots comme ça, orduriers, grossiers, mais à condition de pouvoir parler aussi dans un langage châtier, hein, il faut avoir les deux. Et donc ça nous permet de garder le contrôle, de se reprendre, si on ne répond pas tout de suite à l'insulte. Mais ça laisse des traces. C'est des petites cicatrices, des petites griffures comme ça.
En parlant de traces, aujourd'hui, les insultes qui fusent, à quoi est-ce que vous avez l'impression d'assister ?
À une espèce de récréation de l'enfer, d'un peu diabolique, de « allez-y, tout est permis, vous pouvez faire et dire ce que vous voulez ».
L'indignation, la colère, la tristesse, elles sont intactes chez vous ? Ou alors est-ce que vous finissez pas par être fatigué, désabusé par ce qui se passe ?
Un petit peu, mais je voudrais pas banaliser non plus l'indignation. Voyez-vous, il y a tellement, je pense que vous avez des... Tout le monde est indigné en ce moment. En commençant par les politiques, évidemment, ils sont tous indignés. Quelques déclarations de gens extrêmement honnêtes, intelligents, sensibles. On est indigné, évidemment. Alors ça banalise un peu l'indignation de dire qu'on est indigné.
Pourtant, des couleuvres, vous en avez avalé dans votre parcours, vous le racontez, même dans votre métier, en tant qu'apprenti comédien, lors du concours d'entrée au conservatoire, par exemple.
Voilà une insulte. Lorsqu'on dit à quelqu'un « vous n'avez pas le physique de la maison », qu'est-ce que ça veut dire au juste, le physique de la maison ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un physique tout à fait particulier qui n'entre pas dans cette maison, quand on prend les choses au premier degré. C'est-à-dire que je ne correspond pas aux critères, aux canons de la beauté de l'époque, qui était une époque blonde en France, blonde aux yeux bleus, blonde parfaite dans les traits, qui avait pas de gueule cassée.
C'est ça que ça voulait dire ?
C'est ça que ça voulait dire, oui. C'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire pas d'emploi de jeune premier, donc pas dans la norme, pas dans le moule. En même temps, ça me plaisait beaucoup cette distinction-là. Je n'ai pas du tout envie d'être dans le moule. J'ai jamais eu envie d'être dans le moule. Et j'espère que je ne le serai jamais. Voilà ce que ça veut dire. C'est une insulte, bien sûr. Mais en tant que juif, j'en ai entendu quelques-unes. J'ai eu des cocards, des bagarres, des dents cassées, des gifles, des coups de poing, j'en ai donné aussi, mais tout ça ne veut rien dire, quoi, en définitive, parce que voilà, Vous voyez, ça continue. Alors, la bonne volonté, le comment dirais-je, oui, il va y avoir la marche cet après-midi. Ok, c'est formidable, c'est très bien d'être là, d'être conscient, d'être présent, mais c'est en réalité, c'est là où j'ai l'impression que les bras m'en tombent. Je me dis à quoi ça sert, puisque rien ne bouge, rien ne change. Quoi.
Dure fin de campagne pour Simone Veil. Hier soir, elle n'a guère pu parler de l'Europe. Les deux réunions débat qu'elle devait tenir à Paris ont en effet été perturbées par des commandos d'extrême droite du Front National de Jean-Marie Le Pen.
C'est cette archive de Simone Veil invectivée par des membres du Front National au moment des Européennes de 1979, il y a 40 ans, que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Gérard Darmon. Pourquoi ?
Parce que rien n'a changé. Vous voyez, les choses n'ont pas vraiment bougé parce que cette femme, cette dame qui se met en face de cette cohorte d'insultes et d'antisémites et de fascistes en réalité. Elle leur dit droit dans les yeux, vous ne me faites pas peur. Et vous êtes des SS aux petits pieds. Je serai là. Et c'est ce qui est sous-entendu, derrière moi, il y a tous les gens, tout le monde, tous ceux que vous insultez. Je suis là. Le symbole que vous voulez détruire est indestructible.
À propos de symbole, Simone Veil, nouvelle Marianne, quel symbole est-ce que ce serait ?
Oui, alors vous voyez, peut-être, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, parce que je veux pas non plus que ça fasse, allez, on va lui donner Marianne, et puis, non, ce qui est odieux, c'est les croix gammées sur ce visage. Ce qui est odieux, c'est les deux arbres sciés, à la mémoire de d'Ilan Halimi. C'est esservelé, là. C'est desservelé. Je sais pas comment on dit. C'est barbare.
Au fond, Gérard Darmon, à quel moment de votre vie est-ce que vous avez compris qu'être juif en France, c'était forcément être désigné, comme différent?
Ben, j'ai pas voulu le comprendre, très longtemps. J'ai voulu, dans une espèce de déni, comme ça, de vouloir être accepté. Je suis né ici, voilà, ça fait 70 ans que je vis ici. Alors je me rends compte que effectivement mes racines ne sont pas ici. Et ça c'est un problème, parce que je suis un fils immigré malgré tout, qui était en Algérie, même si l'Algérie était française, et si on pousse plus loin dans ma descendance, c'était le Maroc. Donc voilà quoi, c'est pas simple pour moi.
Grandir dans la France de l'après-guerre, quelle expérience est-ce que ça a été pour vous ?
Moi, j'étais un môme, hein, d'abord. J'étais un môme jusqu'aux les années 60, 60-62, j'avais pas conscience de grand-chose. Moi, j'étais entouré d'amour, baigné dans des familles méditerranéennes, pieds noirs, très hautes en couleurs, qui écrit et que décrit très bien Cohen. C'était ça, hein, c'était les pleurs, deux minutes après les embrassades, c'était les jupes de ma mère, les pantalons de mon père, les courses à travers avec la pantoufle qui vole, l'amour absolu.
Et qu'est-ce qui vous a poussé, adolescent, à vouloir quitter la France pour vivre dans un kibboutz en Israël ?
Non, j'ai pas quitté la France, je faisais partie d'un mouvement qui maintenant, ce mot qui est devenu une insulte, qui a remplacé juif, d'ailleurs sioniste, maintenant c'est quand on dit sale sioniste, en réalité j'entends sale juif. Non, c'était simplement l'expérience de connaître ce qu'était ce pays, qu'est-ce que c'était qu'un kibboutz, ma conscience politique, pour employer des mots un peu comme ça, commençait à s'éveiller, et puis je voulais savoir ce qu'était cette expérience de kibboutz, de gens qui vivaient en communauté, où l'argent n'était pas maître, roi, je pensais que c'était impossible, c'était une utopie totale, et pas du tout, ça se passait très très bien.
Mais vous êtes revenu quand même.
Je suis revenu parce que c'était pas ma vie, c'était pas mon étoile, c'était pas mon destin. J'avais envie de théâtre, j'avais envie de, or Israël à l'époque avait autre chose à faire que de former des acteurs et de cinéma et de théâtre. Il pensait à se défendre et à survivre, donc C'était pas ma vie, puis c'était une vie de campagne, d'agriculture, de le kibboutz, c'était voilà, c'était pas ça quoi. Moi je suis parisien, j'étais ici, je suis un petit français, je voulais vivre ici, c'est mon pays quoi.
Et aujourd'hui, parfois vous vous dites j'aimerais partir.
Non, pas vraiment, de temps en temps quand je suis un peu fatigué, je me dis j'en ai marre de lire ce que je lis, j'en ai marre de voir encore en 2019 écrit sur une façade de restaurant Juden, écrit à peinture jaune, j'en ai assez de ces croix gammées, j'en ai assez de ces déclarations. Je vois ce type là qui a interpellé Finkielkraut, qui parle de haine, qui le traite de haineux alors qu'il a la haine sur sa tête. C'est hallucinant le manque de distance qu'il a avec ce qu'il est. Il a la haine, c'est lui qui le traite de haineux, tu vas mourir. La France, c'est nous, en nous montrant un foulard. Vous voyez, il y a une espèce de confusion des genres. Voilà, alors moi qui suis d'une génération qui, en 1980, par là, 85, je l'ai porté, je le dis souvent, je l'ai porté ce petit badge-là, qui paraît un peu désuet, ridicule, de « touche pas à mon pote » avec la petite main. Ça voulait dire quelque chose, ça. Ça voulait dire qu'on voulait absolument que ces enfants de seconde génération soient intégrés, vivent, puissent être français à 100%. Or, les enfants de ces enfants-là, tout d'un coup, me le rejettent dans la gueule et me disent « Ouais, t'es un sale sioniste », etc. Parce qu'ils ne veulent plus dire « sale juif ». Je trouve ça lamentable. Alors, de temps en temps, pour répondre à votre question, oui, j'ai envie de me barrer, mais pas forcément en Israël. J'ai envie de partir dans un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est la liberté, comme disait l'autre.
Celle dont on aimerait bien qu'elle parte dans cette émission, c'est la culture, figurez-vous, et son actualité assez stable. Somme toute, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 19 février? Avant tout le monde, ce matin dans Boomerang, on veut vous annoncer que le festival francilien We Love Green, qui se tiendra les 1er et 2 juin prochains, vient d'ajouter 14 nouveaux noms à sa programmation déjà musclée. En plus de Booba, Metronomy ou Aya Nakamura, les scènes du Bois de Vincennes vont notamment vibrer sous le flot nerveux du rappeur Vald, au rythme hypnotique des Bretons Phénomènes de Columbine, ou sur la soul soignée de la diva Erika Badu, Fiu Fiu.
Moi je ne révèle rien sur les faits. Du fait divers, tout est déjà connu, il n'y a pas de surprise.
Il va falloir faire quelque chose.
Il faut réunir d'autres victimes.
J'attends depuis toujours ce moment.
Du bon pour Ozon. Hier, le tribunal de grande instance de Paris a décidé que, grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon, récompensé d'un ours d'argent à Berlin samedi, pourrait bien sortir en salle demain, comme prévu. La justice estime que l'œuvre qui met en scène l'affaire Barbarin, liée à un scandale de pédophilie dans l'église, ne nuirait pas au procès en cours. Toutefois, tout n'est pas gagné pour le film, car une deuxième décision de justice est attendue aujourd'hui à 17h. Les femmes en vogue à la Monnaie de Paris. 33 artistes ont été invités à imaginer sur une couverture du magazine Vogue le portrait d'une femme iconique, inspirante. Résultat, l'expo Together, artistes à la une, qui ouvre aujourd'hui, propose notamment de découvrir Orlan, qui met à l'honneur Joséphine Baker et Simone de Beauvoir, Jean-Michel Autoniel, qui sublime Marie-Agnès Gillot, ou encore Eva Jospin, qui magnifie Emily Brontë, stylée.
On s'est lancé dans le fait de produire le prochain film de Gilles Lelouch. On y a cru pendant tout ce temps.
Et un bonheur à propos pour Alain. Hier, l'heureux producteur des films Le Grand Bain et Pupille, Alain Attal, a reçu le prestigieux prix Daniel Toscan du Plantier 2019 du meilleur producteur de l'année, décerné par l'Académie des Césars. C'est la deuxième fois que l'homme qui dirige les productions du Trésor reçoit cette récompense. On se réjouit. On peut aussi s'étonner quand même que l'Académie ait décidé de ne pas citer le jeune et talentueux producteur Hugo Sélignac, coproducteur du Grand Bain et de Pupille, artisan lui aussi de leur très beau succès. Et le comédien Gérard Darmon, invité de Boomerang ce matin pour ce dictionnaire de ma vie. On parlait tout à l'heure, Gérard, d'éducation. Oui. On devrait même en parler plus. Quelle éducation est-ce que vous avez reçue, vous?
D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était baigné d'amour et de bienveillance. Avec la sévérité à l'ancienne, les choses à faire ou à ne pas faire, les petites fessées, les petites torgnoles, les petites tannées, comme on disait.
Et voilà. L'école.
L'école. J'étais plutôt. C'est toujours moi qui prenais. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est à cause de ma voix, de mon fils, je sais pas, ou de mon physique. Quoi. J'avais pas ma voix cette voix-là. Hein, mais bon, je sais pas. Je me démerdais toujours pour trinquer. Je passais un peu à côté parce que j'ai eu très peu de professeurs qui m'ont intéressé à ce que, alors que j'étais extrêmement curieux d'apprendre et je n'y arrivais pas vraiment. Donc j'étais plutôt moyen. J'étais dans les bons mais peu mieux faire.
Vous avez appris à désobéir à l'école?
J'ai pas appris à désobéir. C'est de la désobéissance. C'est quelque chose de tout à fait naturel comme la respiration chez moi.
C'est vrai.
Oui, tout à fait.
Tous les jours, ça se manifeste encore.
Tous les jours. J'ai un rapport avec l'autorité extrêmement particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va du moindre détail de l'assistant au cinéma qui frappe à la porte de ma loge pour me dire on va tourner. J'ai pas envie qu'ils me le disent comme c'est pas maintenant. Oui, j'arrive. Mais c'est pas oui tout de suite. Ben voilà pourquoi. Il y a toujours quelque chose, un petit quelque chose qui me retient, qui me contrarie.
C'est intéressant. Être acteur, dans quelle mesure est-ce que c'est obéir ou désobéir pour vous?
Moi, je trouve que c'est désobéir. Je trouve que c'est désobéir. Attention, mais parce que voilà, justement, c'est là où la contradiction est belle. Mais de toute façon, c'est un métier de paradoxe, hein. Donc le paradoxe, il est là. C'est que c'est un métier où, lorsque vous n'êtes qu'acteur, vous êtes quand même dirigé par un metteur en scène, normalement. Il y a une direction d'acteur. Tout ça, tous ces mots-là m'exaspèrent. Moi, j'aime bien qu'on me suggère les choses. Voilà, il faut me les suggérer.
Et poliment, s'il vous plaît.
Oui, mais suggérer, simplement, voilà.
Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez être comédien?
Écoute, c'est très, très particulier parce que j'ai surtout eu une formation. Mon éducation s'est faite au music-hall. Voilà, plus qu'au théâtre. Et je ne sais pas, c'était en colonie, quand j'ai commencé à écrire des premiers petits sketchs pour faire des petites soirées de comme ça, de colonie, et puis des sketchs qui faisaient rire, et la première vague de rire, franchement, je me souviens très très bien de ça. Je l'ai dit, je ne sais plus quand, mais ça me rendait, j'avais l'impression d'être invincible. Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire plus tard, je vais être invincible.
Tout à coup, je me retrouvais donc avec des textes à mémoriser et une certaine facilité à le faire. J'avais ce que l'on n'apprend pas. Je savais déjà jouer la comédie. J'avais la fibre, la formation de l'acteur. D'aucuns la nient, tu es acteur ou tu ne l'es pas, disent-ils. Je m'inscris en faux. On sent immédiatement celui qui a accompli un travail sur sa voix. Il ne s'agit pas de se créer une voix artificielle, mais simplement de trouver sa voix. Nombre d'individus n'ont pas leur voix. Des balèzes avec une voix qui ne veut rien dire, une voix de nez trop aiguë qui ne correspond pas à ce qu'ils sont parce qu'ils ne l'ont jamais travaillé. Voilà une lacune de notre éducation nationale. On ne nous apprend pas à parler, à respirer. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire, Gérard Darmon, avoir la fibre pour vous?
Eh bien, c'est quelque chose d'indéfinissable. C'est que comme les balèzes en mathématiques ou comme vous voyez, c'est, ou les ceux qui sont faits pour être musiciens.
C'est quelque chose d'inné en fait.
Ou c'est comme si vous demandiez à Zidane ce que c'est qu'être footballeur. Pourquoi? Bon, alors, je me situe pas dans ces zones-là, hein, qui est pas de méprise, ouais. Pas se méprendre. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on n'apprend pas. Tout simplement, et bon, d'après les gens qui m'ont formé, en particulier mon professeur, et voilà, j'avais ce qui ne s'apprend pas. Après, il fallait apprendre ce qui s'apprend.
Alors justement, c'est sur la voix, précisément, puisque vous en parlez, comment ça s'est passé, la voix?
Non, mais la voix, ça s'est très bien passé, simplement.
Le travail sur la voix.
Oui, mais il y avait des médecins, des avocats, des gens comme ça, du monde, j'allais dire civil, je n'étais pas du tout alarmé, mais des gens qui ne voulaient pas être acteurs, qui venaient pour simplement avoir la voix qui leur ressemble. C'est important d'avoir une voix qui me ressemble. Vous n'avez pas jamais été choqué par des gens qui avaient une voix trop nasale, une voix de fausset comme ça, ou qui ne correspondait pas du tout à leur physique. C'est impressionnant. Alors c'est bien d'avoir une voix qui correspond à. Là, on dit beaucoup de choses avec la voix. Vous savez, c'est très révélateur une voix. Hein. C'est très révélateur. Voilà, c'est des exercices tout simples qui se travaillent. Chacun a sa méthode. Une voix, ça met un mois et demi, 2 mois à venir, et puis après on l'a pour la vie.
C'est vrai qu'on continue à l'écouter, votre voix, Gérard Darmon, votre voix qui accompagnait celle de Charles Aznavour, tiens, il y a 14 ans, pour le film Emmenez-moi, d'Edmond Ben Simon. Vous êtes sur France Inter, avec Gérard Darmon donc, vous écoutez Boomerang.
Sur les docks.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fuir les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages.
traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais me barbouiller ce gris environ de bord.
Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main.
Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve.
Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port.
Emmenez-moi au bout de l'air, emmenez-moi au pays de l'air. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Un beau jour sur un rafio craquant de la cocobon. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon.
Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs
qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il est assez irrésistible, on va pas se mentir. Quand sa voix profonde, douce et grave, s'ajoute son regard de velours, on a tout fait de défaillir ou de tomber en pamoison. Mais pas de malentendu, attention, hein. C'est pas l'amant d'une nuit, c'est plutôt l'oncle bienveillant. Ça est toujours soucieux de faire votre éducation, celui qui vous a fait fumer vos premières cigarettes, celui qui a glissé vos premiers préservatifs dans la poche de votre veston, celui enfin que vous appelez à l'aide dans les moments de perdition et qui vient vous chercher à 3h du matin en voiture à 300 km de chez vous sans poser de questions, c'est tonton. Avec son gilet bleu marine ce matin et son petit badge du FBI, figurez-vous, de l'administration Obama, qu'on lui a donné un jour et pour lequel on lui a dit, avec ça tu pourras rentrer n'importe où, j'ai envie de dire, même sur France Inter. Gérard Darmon, invité de Boomerang ce matin pour le dictionnaire de ma vie, l'occasion de revenir sur une vie dédiée au cinéma et au théâtre et vous parler à un moment donné de la fonction sociale du théâtre. Quelle est-elle pour vous?
C'est une question de savoir quelle est la fonction d'un artiste dans la cité. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le théâtre perdure malgré, il perdurera pendant encore des siècles. Parce que il y a quelque chose Molière l'avait bien compris, c'est les vices des hommes, les faiblesses des hommes représentées et moquées sur scène. C'est assez poignant.
C'est encore pour cela que vous allez au théâtre, vous?
Oui, moi je vais parce que et puis un acteur ou une actrice sur scène, c'est, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant, parce que c'est tellement transparent, on est tellement exposé, c'est tellement fragile. Oui, que c'est
ça revient souvent, hein, à vous lire, c'est un lieu qui invite à beaucoup d'humilité. la scène de théâtre.
Bien sûr, que ça, ça c'est une école.
Pour autant, c'est un plaisir quand même, Gérard Darmon, et notamment celui de se plonger dans les mots des grands auteurs, de se les approprier, de se laisser travailler par eux. Ça c'est une expression que vous utilisez. Comment on fait pour se laisser travailler par les mots, justement?
Oui, parce qu'en général on dit je travaille le misanthrope. Non, tu ne travailles pas le misanthrope, c'est lui qui va te travailler. Parce
que travaillé
c'est
par
Molière qui l'a travaillé le misanthrope depuis bien avant toi. Oui, mais il faut. C'est justement ça, parce que si vous voulez, quelle est la différence entre un non-acteur et un acteur? Si vous lisez le misanthrope intellectuellement, vous allez le comprendre comme moi, même probablement mieux que moi. Vous allez peut-être dénicher des choses que je n'aurais pas dénichées, je n'aurais pas comprises probablement. Mais la seule chose, la seule différence, c'est que moi, je vais avoir à transmettre, c'est-à-dire je vais être récepteur et émetteur. Vous n'êtes que récepteur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lisez, vous recevez, vous êtes récepteur. Moi, je suis récepteur et émetteur. Donc, cette alchimie qui se fait entre mon cerveau, ma sensibilité, ma voix et le texte de l'auteur, il est là, mon métier. Ma passion, elle est là. Mais intellectuellement, j'ai rien à vous apprendre. Vous voyez ce que...
Mais c'est intéressant, ça voudrait dire que ce qui fait le bon acteur pour vous, Gérard Darmon, c'est aussi le cœur. Le cœur de transmettre.
Ah, mais ce n'est que ça. C'est que ça. Le cœur et les oreilles.
C'est un texte sur le théâtre que vous avez choisi de nous lire ce matin.
Je peux dire les oreilles et la queue, mais là, c'est le cœur. Le cœur et les oreilles.
J'attendais le moment où ça avait dérapé dans cette émission.
Oui, voilà,
j'étais hyper fier de moi.
Moi aussi, je me trouve
9h34.
Extrêmement sérieux. Je me suis dit, mais ça, je vais plus
tout le monde. Il a fallu que ça arrive à ce moment-là.
Mes grands airs.
Là, c'est un texte sur le théâtre que vous avez choisi de nous lire ce matin. Un poème de 1850 d'Alfred de Musset. Musset que vous alliez d'ailleurs jouer plusieurs fois. Pourquoi ce poème-là, précisément?
J'aime ce poème-là parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de petit de court-métrage comme ça d'un homme qui va au théâtre. Le théâtre est un peu déserté, pourtant c'est un grand auteur, et puis tout à coup, en flânant comme ça avec son regard, il tombe sur une femme, sur de beaux cheveux, sur un cou magnifique, et puis il en parle, il se met à délirer. J'aime bien ça.
On vous écoute.
Ça s'appelle Une soirée perdue. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue, enlacée et roulée en feston, tourne comme un rebut autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie, et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, quelle mal-gaieté, si triste et si profonde, que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et je me demandais, est-ce assez d'admirer? Est-ce assez de venir, un soir, par aventure, d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs, sans en prendre souci? Enfoncé que j'étais dans cette rêverie, ça et là, toutefois, lorgnant la galerie, je vis que devant moi se balançait gaiement, sous une tresse noire, un cou, svelte et charmant. Et, voyant cette ébène enchâssée dans l'ivoire, un vers d'André Chénier chanta dans ma mémoire, un vers presque inconnu, refrain inachevé, frais comme le hasard, moins écrit que rêvé. J'osais m'en souvenir, même devant Molière. Sa grande ombre, à coup sûr, ne s'en enfonça pas, et tout en écoutant, je murmurais tout bas, regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère, sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Ainsi je caressais une folle chimère. Devant moi cependant, à côté de sa mère, l'enfant restait toujours, et le cou svelte et blanc sous les longs cheveux noirs se berçait mollement. Le spectacle fini, la charmante inconnue se leva. le beau cou, l'épaule à demi nue se voilèrent. La main glissa dans le manchon. Et lorsque je la vis au seuil de sa maison s'enfuir, je m'aperçus que je l'avais suivie. Hélas, mon cher ami, c'est là toute ma vie. Pendant que mon esprit cherchait sa volonté, mon corps avait la sienne et suivait la beauté. Et quand je m'éveillais de cette rêverie, il ne me restait plus que l'image chérie. Sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Juillet 1840.
Mais que c'est beau, ces vers d'Alfred de Musset, Une soirée perdue. Merci Gérard Darmon.
C'est moi
merci
que
pour
merci.
Ces mots. Je rappelle que le dictionnaire de ma vie, co-signé avec Laurence Monsenego, vient de paraître aux éditions Kéro. Tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the steez though. And now I'm being can't entertain no bummy boy. Need my boy fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage steady blowing. I'm a woman who could teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I break my fellas off but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly.
I can't sleep.
Fish, Little Sims et Cléosol sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, l'instant M.
Vous m'entendez, Sonia?
Bon.
À demain.
À demain.